Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes aujourd'hui un petit peu à la veille d'une renaissance, ou en tout cas en attente d'une renaissance?
Oui.
Aujourd'hui,
oui.
En Europe, à la veille d'une renaissance, on n'apprend plus ni le latin ni le grec.
Oui.
Qui lit Homère aujourd'hui? Je serais curieux de savoir qui autour de nous, à part. se souvient éventuellement de
cette
étude homérique.
Oui.
Et. Penser différemment, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, quand on aimait. Aujourd'hui, en France, par exemple, apprécier Trump, c'est compliqué à assumer.
Attendez, j'ai pas bien compris le lien.
Non, mais ça va être un peu plus, mais je pensais différemment, c'est un peu compliqué. J'ai le sentiment que de retrouver dans votre description de l'Europe pré-Renaissance, un petit peu une situation intellectuelle qu'on pourrait vivre aujourd'hui. Et quel est votre avis?
J'ai pas très bien compris le sens de votre remarque. J'en profite pour vous dire une chose. J'en profite pour vous dire une chose. Je m'étais dit, tiens, il faut que je leur dise à un moment donné, au début, milieu, fin, et je vais le dire à la fin. Peut-être ça vous répondrait à votre question. Je ne sais pas. Vous savez, les affaires dont je viens de vous parler sur humanisme, après coup, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas dans ce truc dont on nous rebat les oreilles, enfin, il faudrait dire qui et à qui, depuis quelques années, cette histoire des racines... de l'Occident, ou de l'Europe, racine chrétienne ou pas racine chrétienne. Alors, je me suis creusé le citron, puisque moi j'étais en plein dedans avec... Bon, moi, je dis à tout le monde, les humanistes, c'est ceux qui ont réussi à récupérer les racines de l'Antiquité gréco-latine, païenne. Et quand je vous disais tout à l'heure, citez-moi un auteur chrétien qui arrive à la cheville de Lucien, ou d'Euripide, ou d'Homère, bon, il y avait un petit sous-entendu derrière. Je suis... Soyons explicites. Les racines culturelles de l'Europe, de l'Occident, c'est la culture gréco-latine antique, science, littérature, art, même politique. Le christianisme là-dedans, mais évidemment, le christianisme, c'est une greffe tardive qui s'est opérée à partir de Constantin, à partir d'un rameau exotique, enfin exotique, pas totalement exotique, puisque les Juifs étaient intégrés à l'Empire romain, non sans peine d'ailleurs, bon, à l'époque des débuts du christianisme. Et le christianisme est vraiment une greffe sur le tronc de la culture, de la civilisation gréco-latine païenne antique. Et cette greffe, si on veut poursuivre la métaphore arboricole, cette greffe est devenue... phagocyte, puisque le christianisme triomphant a voulu faire disparaître le tronc sur lequel il se greffait. Les humanistes ont réussi à séparer. Et en ça, d'ailleurs, ils sont les ancêtres de la découverte de la laïcité, de dire il faut séparer absolument l'autorité catholique de la culture que nous revendiquons et qui, elle, a le droit d'exister même étant polythéiste. On a le droit d'être polythéiste? Non. C'est qui? On a le droit d'avoir une culture polythéiste. C'est pas du tout la même chose. Or, la culture polythéiste, et nous y voilà, par rapport à ce que vous disiez, pratiquement plus personne ne lit Homère en grec, bien sûr, sauf quelques normaliens et agrégés, souvent pas très marrants d'ailleurs, de fréquentation. En revanche, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas une série télévisée? Il n'y a pas, sauf les mangas, qui sont vraiment japonais. Bon. Donc, eux ne sont vraiment pas de culture gréco-latine. Écoutez, on trouve du grec et du mythologie grecque partout. Une agence immobilière s'ouvre à côté de chez moi, ils vont s'appeler Palace Immobilier, ou vous voulez vendre un produit bio, on va l'appeler évidemment Déméter. Le grec fait toujours autorité, et même les contenus, même si les gens ne les connaissent pas trop, ça, on en a besoin comme d'une espèce de on sait, comment dire, on sait... Écoutez, même mais les séries télévisées, même dans la guerre des étoiles, il y a la moitié des personnages qui ont des noms de héros de la mythologie de la guerre de Troie. Je veux dire, on en est imprégné. Et je pense qu'on ne pourra pas s'en détacher. Alors, très peu de gens... Alors bon, le grec et le latin vont disparaître des écoles, plus ou moins. Dans les grandes lignes, oui. Mais attendez, il faut... C'est pas le sujet, excusez-moi. Mais j'en parle quand même. Parce que... comme je fréquente évidemment des tas de latinistes et d'hellénistes tout le temps, ah oui. Alors, moi, je les engueule, je leur dis, mais vous êtes nuls, parce que c'est vous qui sciez la branche sur laquelle vous êtes assis, vous enseignez le grec et le latin de façon tellement emmerdante que, et puis vous faites une sélection telle qu'évidemment, plus personne ne veut y aller. Or, eux le disent eux-mêmes, 80% des gosses du secondaire demandent à faire du latin et du grec. Ils ont envie, ils voudraient bien, mais ça leur est amené de façon tellement tarte qu'ils ne peuvent pas. Donc, on ne le laisse que aux crânes d'œufs qui font aussi de l'allemand et qui vont aller à Louis le Grand et peut-être à Normal Sup. Les autres, on dit non, ça c'est pas pour toi. Bon. Mais, alors il y en a qui disent, oui, mais quand j'étais jeune, tout le monde faisait du latin. Sauf que, quand j'étais jeune, quand nous étions jeunes, j'ai été voir les statistiques. Moi, quand j'ai passé le bac, il y avait quelque chose comme 120 000 bacheliers, gens qui ont eu le bac cette année-là. Ça fait pas mal de monde. Là-dessus, il devait y avoir une petite moitié qui faisait du latin. Donc, ça fait quoi, 50 000 euros. Enfin, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il y a combien de gosses qui ont le bac? Vous savez le chiffre? C'est dans les 800 000. Et il y a toujours un petit 50 000 qui fait du latin. Voilà. D'ailleurs, c'est plus ou moins les mêmes. Évidemment, c'est les gosses des bourgeois de la rive gauche. Bon, ben voilà. Bon, excusez-moi, j'ai sûrement pas répondu à votre question, mais j'avais envie de le dire. Bah écoutez, moi je vais vous dire, j'amène mon éloge de la folie, j'amène mes adages, les gens ils se jettent dessus, et ils disent, ah là là, ça donne envie de faire du latin, ça donne envie de lire le grec, et ben voilà, et ben après ça vous avez qu'à débrouiller vous, et surtout que maintenant on peut le faire, il y a des assimiles, et même on peut. Non, enfin, ce qu'il faut c'est le désir. Or, on fait l'enseignement de façon tellement désuète, j'ai vu des gosses, on les emmerde avec des versions latines de Cicéron, mais alors on choisit vraiment le passage, mais le plus emmerdatoire possible de Cicéron, et Dieu sait qu'il y en a, alors qu'on pourrait lui donner, les colloques d'Erasme, des trucs très drôles, c'est d'une folle richesse, on pourrait leur faire lire Lucien.
Le désiris.
Mais oui, non mais d'ailleurs, on le faisait, les pédagogues de tradition humaniste, je sais pas si, on oublie ça, les humanistes, les vrais, les profs, donc les gens qui étaient embauchés comme profs dans les écoles au XVIe, XVIIe siècle, on leur faisait signer des contrats, et on a retrouvé les contrats, ils s'engageaient par contrat à écrire et à faire jouer chaque année une pièce de théâtre à leurs élèves en latin. Alors je ne dis pas que c'était tous des chefs-d'œuvre, mais il y avait de la merde, évidemment, 80% de merde. Mais c'était vivant. Les jésuites l'ont fait très longtemps. Hein. D'ailleurs, la blague, c'est que c'est les jésuites qui ont continué à le faire jusqu'au XXe siècle, pratiquement. Bon. Donc, on peut, s'il y a désir, ben voilà. Moi, je pense que le problème de l'humanisme, enfin, le problème, la catégorie, c'est le désir. On veut récupérer cette culture, et ben, retroussez vos manches et faites-le, et puis voilà. Si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider. Autrement, évidemment, si on dit simplement, l'État ne m'a pas fourni le latin et le grec tout cuit, et l'hébreu, et l'arabe, et le chinois, l'État est un salaud. Alors oui, on peut dire ça, mais moi je pense que non. Je pense que tu le veux, fais-le. Et puis voilà. Surtout maintenant, dites donc, il y a Internet, avant l'Internet, avant tout ça, avant l'électricité, effectivement c'était très difficile. Trouver un bouquin, si vous n'aviez pas la carte de l'ABN, puis avoir la carte de l'ABN c'était homérique, c'est le cas de le dire. Maintenant, sur Internet, vous pouvez trouver mais des trucs. Les manuscrits, vous pouvez les avoir, mais pas tous, mais presque tous. Moi, j'ai trouvé des trucs invraisemblables, des éditions, des incunables, des trucs. Alors, évidemment, qui va lire des incunables en latin? Mais moi, je suis pas bon latiniste, mais je connais des gens qui le sont. Quand je trouve un truc vraiment important, j'appelle des copains, je leur dis, dis donc ça, qu'est-ce que ça raconte? Crac. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, je le dis un peu vulgairement, mais je le dis parce que je le pense. Puis, comme je suis vieux, je me permets de dire des choses comme ça.
Moi, je m'interroge un peu quand même sur votre thèse de christianisme, grève de la culture. Tout est grève de quelque chose. On peut dire à ce moment-là l'Empire romain est une forme de grève aussi de la culture grecque. Enfin,
mais bien sûr.
Je ne vois pas en quoi le christianisme est davantage.
Non, ce que je voulais dire. Alors, je vais vous dire ce que je voulais dire. Le rapport, par exemple, entre culture romaine et grecque. C'est très connu, les Romains l'ont toujours dit, et d'ailleurs on le sait même archéologiquement, en fait les fondateurs de Rome, c'était des Grecs. Bon, d'ailleurs, même l'Énéide en parle, c'est-à-dire que les Romains, dès le début, étaient baignés dans un fond culturel religieux, ils ont la même religion. Alors les dieux n'ont pas le même nom, pas tous, certains ont le même. Ils ont, comment dire, les Romains, pour les Romains, d'ailleurs les Romains l'ont toujours dit, ils ont conquis la Grèce, alors ces fameux... parce que eux-mêmes considéraient que c'était leur patrie culturelle. Bon. Et je pense que c'est vrai. Enfin, quand on lit les textes, ils n'ont que ça à la bouche. Alors que la culture judaïque... Alors, il y avait des juifs dans tous les coins de l'Empire romain, ça c'est vrai, mais les juifs, grosso modo, voulant conserver leur singularité par rapport, évidemment, par rapport à un milieu polythéiste qu'ils considéraient comme...
Surtout, ils ne venaient pas du même endroit géographique.
Alors, bon, évidemment, le judaïsme et le christianisme venaient de Palestine.
C'est plutôt bon. Ça, je pense.
Oui, mais si vous... Non, mais ce que je veux dire, c'est que judaïsme et puis christianisme, parce que
là, pour le coup,
qu'est-ce que c'est que le christianisme initial, sinon une secte juive? Et on le sait, bon. Tous les premiers chrétiens, Jésus compris, étaient des juifs. Tous les premiers chrétiens.
C'est normal, Jésus.
Non, mais je ne dis pas que c'est normal ou pas normal.
Oui.
C'était tous des juifs qui allaient à la synagogue, qui faisaient circoncire leur fils et qui observaient les fêtes juives et qui lisaient la Bible. Jésus lui-même allait lire la Bible le samedi, bon, le jour du Shabbat. Bon. Les premiers chrétiens étaient des juifs qui ont. C'était. Bon, qu'est-ce que c'est un chrétien? C'est un juif qui considère que le Messie est arrivé et que c'était Jésus, dans le fond. Voilà. Bon. Or, cette culture juive puis chrétienne se voulait elle-même, encore, on dit, il ne faut pas le dire parce que tout le monde ne le pensait pas. Il y avait des tas de juifs qui pensaient qu'on pouvait s'accommoder de la culture grecque. Beaucoup le faisaient. Et Philon d'Alexandrie écrivait en grec et faisait des analyses platoniciennes de la Bible. Bon, et il parlait grec. Il avait des copains romains qui lui disaient, dis donc, tu parles grec, tu parles la langue des goy, c'est interdit de faire ça. Le vrai commentaire de la Bible, il se fait en araméen ou en hébreu. Tu n'as pas le droit de le faire en grec. Et lui disait, je vous embrouille, je le fais quand même. Parce que lui, il trouvait ça bien. Donc, quand on dit, même quand je dis les juifs et les chrétiens se considéraient comme insolubles dans la culture gréco-romaine, c'est pas vrai. Certains d'entre eux se considéraient comme tels. D'ailleurs, même les Maccabées, on sait bien qu'ils étaient une minorité. C'était une minorité active, violente, qui a finalement réussi à son coup de main. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que la frange, parce que même chez les chrétiens, quand ils ont commencé à être nombreux, assez vite, dans l'Empire, et que ça n'a plus été des juifs, majoritairement, beaucoup d'entre eux, ça ne les gênait absolument pas de continuer, c'est la vieille histoire, tu es invité par un Romain un jour de fête païenne. Est-ce que tu vas manger les idolotites, ces fameux, les viandes qui ont été sacrifiées à des dieux, à des idoles païennes? Eh bien, la plupart des chrétiens, ils y allaient, parce que c'était le repas, de même que du temps de la jeunesse de l'autre, à Tunis, les jours de fête juive, les juifs invitaient tout le quartier, et les juifs et les musulmans en invitaient tout le quartier, quelle que soit la religion. Tout le monde n'était pas intolérant. Mais certains l'étaient, et il se trouve que dans le domaine culturel, ce sont les intolérants qui ont gagné. C'est Tertullien qui a gagné, au final. En disant, le spectacle, c'est une offense à Dieu, et ça doit disparaître, et le problème, c'est que ça a disparu. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça a disparu, et ça n'a pas disparu parce que les gens n'aimaient plus aller au théâtre. Ça n'a pas disparu parce que les gens n'aimaient plus la poésie. Ça a disparu parce que, une fois que les temples... Mais évidemment, nous, en plus, on ne s'imagine pas. Un théâtre d'époque romaine, ou un stade, c'était, il y avait des statues partout, des peintures partout, qui représentaient quoi? Que des scènes d'orgies, de massacres, d'inceste, des scènes de mythologie païenne. Et pour un œil pieux et un poil intolérant, c'est insupportable. C'est le diable, les diables sont chez nous. Les diables sont à table au milieu de nous. Vous jouez une pièce d'Euripide, les diables sont sur scène. Et en plus, vous pleurez, vous riez... Vous ne vous rendez pas compte, Saint Jérôme en a parlé. Saint Jérôme. Pour lui, ça a été un crève-cœur, cette histoire. les grands intellectuels, les premiers grands intellectuels chrétiens, les pères de l'Église, enfin pas tous, mais Jérôme, Augustin, avaient fait des études de leur temps, donc païennes. Ils étaient imbibés d'Homère, ils étaient imbibés de Virgile, ils étaient imbibés de Platon, etc. Et pour eux, ils l'ont raconté. Jérôme, principalement, l'a raconté. Augustin, pour eux, ça a été un déchirement. Parce qu'ils disaient, il faut que j'aime mon Dieu des chrétiens, il faut que j'aime Jésus plus qu'Homère. Et c'est pas facile. Et eux, ils n'étaient pas des idiots. Et ça a été un déchirement. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Mais au final, on sait que c'est la fraction intolérante qui l'a emporté. Parce que la réalité, c'est ça.
Comment expliquez-vous qu'on n'a pas connu l'Ancien Testament ?
Mais parce que l'Ancien Testament, pour les chrétiens, contient la preuve... Comment dire ? Un chrétien, c'est quelqu'un qui pense que Jésus est le Messie. Or, qu'est-ce que c'est qu'un Messie ? Ben, c'est quelqu'un qui est annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Si vous supprimez l'Ancien Testament... Ben, qui va justifier que Jésus est le Messie ou n'importe qui.
C'est rempli de meurtres, de boucheries, de
banquets. Oui, mais enfin, bon, on dit c'est allégorique. Enfin, on trouve, on s'arrange. Et puis c'est rempli. Attendez. C'est rempli de meurtres, de coucheries. Non. Mais attendez. Non. L'Ancien Testament. On dit l'Ancien Testament. Et combien de livres dans l'Ancien Testament ? La Torah. En contient un peu, mais l'essentiel des coucheries, des meurtres, ça se trouve dans les livres dits historiques. C'est l'histoire de David, Salomon, Juge, etc. Ou alors là, on s'entretue, parce que c'est grosso modo d'ailleurs des livres historiques. Ça raconte les mêmes trucs que les histoires grecques, les histoires perses. Bon, c'est l'histoire de dynasties qui s'entretuent tranquillement. Mais la Torah est supposée ne pas en contenir, ou n'en contenir que sous forme hautement symbolique. Mettons le meurtre de Caïn et Abel. C'est un meurtre, mais c'est pas un meurtre. C'est pas comme Médée tuant ses enfants. C'est pas comme Édipe couchant avec sa mère. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, mais attendez. Pour les Juifs, il y avait le même problème. Les Juifs.
Sur le fond, je vous rejoins. C'est sur la forme que j'ai du mal à suivre. Je trouve que vous mélangez à la fois. Que vous simplifiez trop en traçant un fil rouge religio-culturel. Et finalement, en oubliant toutes les nuances qu'apporte l'histoire, le caractère des...
Alors, attendez, là je vous arrête, parce que si j'ai fait ça, comment voulez-vous le faire en 35 minutes ? On est obligé de caricaturer. Donc j'ai caricaturé à mort pour rendre le motif plus visible. Mais c'est évident, vous avez mille fois raison, il faut s'attarder sur chaque cas et montrer la nuance. Parce que par exemple, sur la question de l'Ancien Testament, il y a un cas, alors c'est une coïncidence, il se trouve que j'ai planché dessus, chez Diane de Cellier. C'est le Cantique des Cantiques. Qu'est-ce que cette histoire de coucherie ? Alors là, on parle de la coucherie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le Cantique des Cantiques, Dieu n'est pas mentionné une fois, aucun prophète n'est mentionné, ce n'est, si on le lit littéral, c'est exclusivement un récit érotique. Point. Érotique. Tu as les dents comme ceci, tes seins comme ça, bon, sensuel, mais peu importe. Cette sensualité-là, elle est haram dans les religions monothéistes. C'est tout ça, c'est simplement ça. Bon, comment expliquer qu'elle soit dans la Bible ? Eh bien, on a fait des recherches, moi-même j'en ai fait. Alors ça ne s'est pas fait comme ça, hein. Au début, pour certains, il y était. Pour d'autres, il n'y était pas. Ça a été un concile de Yavne, dans lequel finalement l'autorité d'un certain rabbin a dit « Oui, le Cantique des Cantiques peut être lu sans se laver les mains ». Mais un autre rabbin a dit « c'est pas vrai, c'est le contraire ». Et puis finalement, alors, on le garde. Et d'ailleurs, entre nous, demandez à des chrétiens ou juifs de nos contemporains ce qu'ils en pensent, eux. Ben, ils vont tous vous dire, moi je peux vous dire, j'ai une tante, elle est morte maintenant, Dieu est son âme, qui était une bigote, une grenouille de bénitier, qui a, vous savez, les commentaires du Cantique des Cantiques, on a des bibliothèques, qui a pondu aussi un commentaire du Cantique des Cantiques. Comment cette vieille bigote a-t-elle pu faire un tel commentaire ? Alors, le bouquin, je l'avais chez moi, j'ai pas réussi à le retrouver, ça m'énerve, mais c'était tout petit, alors évidemment, il s'est perdu entre les autres livres. Mais je me souviens quand même très bien, son commentaire du Cantique des Cantiques, ce n'est que un commentaire symbolique, mystique. L'époux et l'épousée, c'est Dieu et le peuple. Alors, pour elle, c'est une catholique, et le peuple chrétien. Un peu faiblard, franchement, entre nous. Bon, parce que, qu'est-ce que les auteurs, à l'époque, Et les chrétiens n'existaient pas. Bon, alors, il y en a. Alors, les juifs, mais évidemment, les juifs ont dit. Enfin, les rabbins qui ont dit, on peut le lire en se lavant les mains. On dit, c'est une allégorie de l'amour entre Dieu et son peuple, nous les juifs. Donc, mais attends, c'est comme la partie, je veux dire, c'est, on peut concevoir un amour pour Dieu comme on fantasme qu'une femme aime l'homme qui la domine. Alors voilà, tiens, et ben, on y est. Le vrai croyant le vrai mystique se met dans une position féminine vis-à-vis d'un Dieu masculin. Il y a des tas de mystiques qui ont développé ça. C'est pas idiot, loin de là, même des soufis, beaucoup de soufis musulmans l'ont fait, en disant « prends-moi, je suis ta femme, bon, et puis, enfin, pareil, je schématise un petit peu, mais le fil, je pense, il existe. Et le Cantique des Cantiques, ben voilà, le Cantique des Cantiques, je regrette, c'est, si on le regarde philologiquement, c'est un texte parfaitement païen. C'est un texte qui a à voir, je pense, alors on n'a pas la preuve, mais je pense, avec la prostitution sacrée dans les temples d'Astarté en Palestine. C'est très ancien, on en a des exemples en Mésopotamie avant. Bon, c'est pas le lieu d'en parler. J'ai publié chez Diane de Sellier un Cantique des Cantiques avec notre ami Waknin, et dans lequel je développe l'analyse historique du Cantique. Voilà, donc, mais la tradition fait qu'il y a une espèce de consensus, tant chez les juifs que chez les chrétiens. Bon, alors voilà, on le lit les jours de mariage en disant c'est une allégorie. Un poil sensuel sur les bords, bon, voilà. C'est tout, enfin c'est tout. Ça se ramène à des choses comme ça. Donc, l'Ancien Testament, pourquoi l'avoir gardé? Alors là, par contre, c'est un argumentaire théologique. Si Jésus est le Messie, il faut bien que quelqu'un en fasse la démonstration. C'est pas les miracles, des tas d'autres gens faisaient des miracles. Bon, la résurrection, il n'y a pas tellement de témoins. Par contre, le fait qu'il a été annoncé, bon, Jean-Baptiste... pur prophète juif, donc il lui donne l'onction. Or, le Messie, c'est une notion juive. Le Messie, c'est David. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. S'il n'y a pas Nathan, il n'y a pas David. Bon, s'il n'y a pas Jean-Baptiste, il n'y a pas Jésus. Enfin, il n'y a pas Jésus n'est pas le Messie. Donc, si on enlève les prophètes, eh ben, il n'y a plus de christianisme, parce que Jésus n'est pas. Jésus est un type très bien qui fait des miracles, qui a peut-être ressuscité, mais de là à être le Messie, c'est une autre chanson.
Non, l'objet de ma question, c'est juste de dire que la violence, la démonstration de ce qui est une partie de la culture du Coronel n'est probablement pas la raison de la destruction de l'ensemble de ce.
De nouveau, excusez-moi, mais j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire.
On a effacé toute trace de.
Oui, autant que faire se peut, mais évidemment, c'est impossible.
Vous détruisez probablement les idoles.
Le Rome, probablement, non, il ne faut pas exagérer. On ne détruit pas probablement les idoles. La littérature des pères de l'Église n'est qu'une vaste imprécation contre les idoles.
La perte de ce patrimoine, aujourd'hui, nous on est attaché à ce patrimoine, parce qu'on n'a pas conscience, la perte de ce patrimoine historique, il est souvent lié à des nécessités de vie.
Il est lié à quoi?
De vie. Des civilisations, des civilisations et des villes qui se développent. Et donc, ils bâtissent sur l'ancien.
Non, c'est pas la même chose. Utiliser les pierres du Colisée pour construire des palais, c'est une chose. Détruire les statues, il y a eu encore au XVIe siècle, on découvrait une statue nue, donc vraisemblablement une Vénus ou quelque chose comme ça. On disait une messe d'action de grâce pour pardonner à ceux qui l'avaient déterré. Alors, évidemment, culturellement, les puissants, les princes, les évêques, les gens réellement puissants, eux, la culture grecque, c'est ce qui a fait que la Renaissance a marché et l'humanisme. En fait, à mon avis, il faut prendre à la façon de Max Weber, c'est que sur le marché de la culture, tout d'un coup, les humanistes proposaient aux puissants de ce monde une culture colossale. Je te fais ton portrait à cheval. Donatello a fait la première statue équestre qu'on avait faite depuis 1000 ans. Plus personne ne savait fabriquer une statue équestre en bronze. Donatello a retrouvé le système et le prince qui se faisait... Mais vous savez que jusqu'à encore, maintenant je ne sais plus si on le fait, pour un prince se faire représenter à cheval, je te pardonne tout, même si les modèles sont évidemment païens. Pour décorer les églises, entre une église construite par Bramante ou par Le Bernin et une église gothique, alors, c'est très chic une église gothique, mais on ne peut pas dépasser une certaine taille. La coupole du dôme de Florence, de Brunelleschi, c'est la plus grande coupole au monde. Même encore maintenant, on a péniblement réussi à faire une plus grande, mais c'est encore maintenant... Donc, vous vous rendez compte, pour la papauté, et dire, nous, on est les plus beaux bâtiments du monde, on est les plus belles peintures du monde. Si vous ne faites pas de nu et pas de perspective vos peintures, eh bien, elles vont rester des peintures byzantines. Hein, où le personnage important, il est au-dessus, le fond, c'est doré parce que c'est le ciel. Faites une perspective à la Titien ou à la Véronèse. Excusez-moi, les noces de Cana faites par Véronèse, ça jette quand même un peu. Bon, et non, je le dis vulgairement, mais eux, c'est bien comme ça qu'ils l'ont compris. S'ils ont payé les peintres, les sculpteurs, les architectes, les évêques, les papes les ont payés, c'est parce que, pour la gloire de Dieu, ça avait une autre gueule que ce que leur proposaient les artistes des écoles byzantines. Ça, c'est pas moi qui l'invente, on l'a dit à l'époque. Bon, les Médicis l'ont fait pour un prince. C'était magnifique. Et où est-ce qu'on prenait? Dans la mythologie grecque. Et on prenait, il fallait savoir faire le nu, la perspective. Et bien ça, il faut aller chez les Grecs pour le chercher. Parce qu'au Moyen-Âge, on ne savait pas faire le nu ni la perspective. Point. Et puis le nu, en plus, c'était mal vu, parce que le nu, c'est bon pour décorer les bordels ou les salles de... les chambres à coucher des princes, mais pas pour les églises. Et bien après, on a commencé à le faire dans les églises. C'est-à-dire sur le marché de l'art, évidemment, ce qu'amenaient les humanistes, ben, ça avait un tel brio que ben, l'Église s'en est emparée en grande partie. Le baroque, qu'est-ce que c'est le baroque? Le baroque, c'est l'art de la contre-réforme, c'est la période où Rome a voulu utiliser tout l'apport dans les arts plastiques, des arts plastiques pour rehausser la gloire de l'Église et pour construire des édifices absolument fabuleux. Façon, imitation, écoutez... je l'ai dit dans le bouquin. Alors ça m'amuse que personne ne s'en était aperçu apparemment jusqu'ici. Vous savez, ce qu'on appelle les églises Renaissance. Mais il y en a encore maintenant, on continue d'en faire. À deux doigts de chez moi, à Sainte-Marie des Batignolles, elle est construite comme ça. Et je me disais depuis toujours, mais qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces églises? Moi, je ne les trouve pas tellement jolies. Vous savez, ces églises... et les façades, hein, je parle des façades. Bon, après ça, c'est la coupole. Mais la façade, moi, ça ne m'a jamais tellement excité, une façade d'église Renaissance. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Alors, à force de regarder une, regarder l'autre, mettre par-dessus, je dis, mais ça crève les yeux, ce qu'elles ont de spécial. Si vous... je vous fais le dessin.
Ça?
Qu'est-ce que c'est? Bon, on vous allez me dire, c'est un pont. Mais c'est pas vrai, c'est pas un pont. Ça, c'est l'arc de triomphe du Carousel. Ça, c'est un arc de triomphe romain, en gros, pour dire vite. Ça... c'est une façade de temple grec. C'est pas moi qui l'invente, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Vous mettez l'un sur l'autre, ça vous fait une façade d'église Renaissance. Et alors, curieusement, j'ai réalisé, on a construit des églises sur ce modèle-là jusqu'à maintenant. On n'a pas inventé... alors, si, il y a eu des architectes qui ont essayé d'autres choses, mais le Corbusier, comme ça. Mais cette espèce de modèle, les églises... et alors on y rajoute, bon, un volute ici, un truc comme ça, bon. Après ça, on... et ici, le fronton... hein, avec marqué A de B, V, etc., Beatam Virginem, etc., plus, je ne sais pas qui, Jésus, les saints, etc. Bon, ça, je regrette, c'est l'architecture grecque. C'est pas un fantasme. Les Grecs décoraient comme ça leur temple. Bon, donc, ce système est devenu plus ou moins la règle, enfin, est devenu le type généralisé dans tout l'Occident catholique, à partir de la Renaissance. Parce que, pourquoi, moi, force est de constater que les autorités, les plus hautes autorités de l'Église catholique, la plupart des papes, pas tous les papes, mais, trouvaient que ça avait plus de gueule qu'une église gothique, c'est tout. Ben voilà, donc ils ont passé commande à des architectes qui faisaient ça. C'est pas moi qui dis que les églises gothiques sont pas belles, c'est absolument pas ça. C'est eux qui trouvaient que ça était plus chic. Et on met des statues, tiens, sur les côtés, et on met... enfin, tout ce truc, ça c'est grec, mais c'est du grec pur jus, je veux dire. C'est donc du païen. Les temples chrétiens de l'Antiquité n'étaient pas faits comme ça. C'était des basiliques, c'était autre chose. Ça, c'est vraiment de l'art païen. C'est extraordinaire que l'art païen n'est pas n'importe lequel, c'est pas les pagodes chinoises. C'est de l'art gréco-romain réel, En plus, ils se sont donné un mal de chien, les Alberti et autres Brunelleschi, parce qu'eux, ils n'avaient que des ruines. Alors, ils disaient, mais qu'est-ce qu'est le haut de la colonne, qu'est-ce qu'est le bas, quel est l'ordre? Ils se sont donné un mal de chien pour essayer de mettre ça à peu près en ordre. C'est à peu près ça. Et puis, voilà, c'est devenu la règle en Europe. Et si vous voulez, c'est pas un fantasme, c'est pas mon fantasme, c'est la réalité. Promenez-vous dans Paris, mais ou dans n'importe quelle ville, et même chez les protestants. Aux États-Unis, on construit des bâtiments publics comme des temples grecs. L'église de la Madeleine, l'église à Paris, qu'est-ce que vous voulez, c'est une imitation du Parthénon, c'est pas moi qui l'ai dit, à l'époque ils l'ont dit.
Mais... Oui, mais c'est dans l'art en général, c'est pas
oui. Non, mais c'est dans l'art en général, et l'église catholique est rentrée dans ce vêtement-là. Alors pourquoi? Moi, si vous voulez, j'en sais rien. On n'a pas la lettre du pape de la Renaissance, de Jules II, quoique si, on l'a, celle de Jules II à Michel-Ange, qui dit « Je préfère ce système-là ». Mais c'est ce qu'ils ont fait. Les jésuites, écoutez, les jésuites, les coupoles en trompe-l'œil. Invraisemblable que les jésuites ont commandé. Qu'est-ce que c'est le trompe-l'œil? Sinon, l'application de la perspective à la décoration des voûtes, ça, c'est une technique grecque.
Oui, mais je ne vois pas, dans votre propos, je ne vois pas en quoi c'est gênant. Enfin, c'est normal. C'était
mais je ne dis pas que c'est gênant.
Non, mais je veux dire, c'est voilà, c'est...
Mais attendez, non, mais je crois que vous vous méprenez. Tous les mots que je profère ne sont pas des injures contre l'Église catholique.
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que vous essayez de démontrer quelque chose...
Oui, je veux démontrer que l'Église catholique a par exemple, a bloqué le développement intellectuel littéraire occidental. En zone occidentale, hein, pendant pratiquement 2 siècles. Par contre, elle a archi-développé le développement des arts, alors, de certains arts. Hein. Alors, la musique, par exemple, vous voyez, problème, musique, opéra. Quelle a été la position de l'Église sur, la musique, sur l'opéra? L'opéra, c'était explicitement l'essai de reconstruire la tragédie grecque. Ils se sont donné un mal de chien, hein, les Italiens. Ils ont fini par y arriver au début du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Uniquement des histoires mythologiques. Alors, des histoires, alors là, coucherie, assassinat, Orphée, voilà, Orphée, premier opéra, Orphée. Orphée, vous savez, dans la version initiale de Policien, Orphée, après la mort d'Eurydice, il décide de rester pédéraste. Parce qu'il dit, les femmes, vous voyez à quoi ça nous amène. Eurydice, je l'aimais à la folie, donc dorénavant, je m'occupe que des garçons. Ça, c'est des policiens. Bon. Or, donc l'Église... L'Église, les hautes sphères de l'Église, globalement, là aussi, il faut voir, pas tout le monde, mais la plupart des instances dirigeantes de l'Église ont choisi d'utiliser à leur propre usage tout ce que les arts plastiques pouvaient, de la Renaissance païenne, pouvaient proposer. Alors, par exemple, il ne fallait pas que les nus soient nus, il fallait qu'ils soient habillés, mais il fallait qu'ils aient des anatomies de nus.
C'est...
Alors que dans une statue du Moyen-Âge, ils n'ont pas des anatomies de nus.
C'est un processus. Moi, ce que j'ai du mal à saisir dans votre tête, c'est qu'on a l'impression d'une espèce de penseur omniscient qui, en l'occurrence, est l'Église, mais on pourrait prendre une autre religion ou une autre institution, qui regarde son siècle avec beaucoup de recul, qui dit juste le plan que j'ai échafaudé pendant 2-3 siècles qui est en train de s'effriter. Ça, c'est un processus. C'est-à-dire que, et vous l'avez très bien dit, quand vous dites que certains prélats, probablement fortunés, ont fait marcher par le mécénat de l'art, etc., c'est qu'ils étaient sensibles à ces choses-là.
Oui, mais par exemple, vous remarquez que les protestants ont absolument refusé de marcher là-dedans. Les luthériens, en pays luthérien, par exemple, donc même période, vraiment, hein, fin XVIe siècle et XVIIe siècle, en pays luthérien, qu'est-ce qu'on a fait des arts, tous ces arts de l'Antiquité païenne? On a développé à mort un art, la musique, qui a donné, alors évidemment, les gens qu'on connaît, Bach et compagnie, parce que tout... Alors, les protestants disaient, à mon avis, non sans raison, coller des statues partout, des plafonds peints avec les saints dans toutes les positions, ça sent très fort son paganisme, ça sent très fort son idolâtrie. Alors, il y en a qui ont même dit plus, qui ont dit, vous savez, l'Église catholique, ce qui lui a permis d'occuper la place qu'elle a occupée en Occident, c'est qu'elle a enfilé les habits des religions polythéistes. On ne construisait pas les églises n'importe où, on les construisait aux endroits où on avait détruit un temple, là où il y avait une ancienne statue, tatata, les Vierges Noires. On connaît l'histoire, mais en plus, elle est réelle. Elle est... On a des témoignages autant qu'on en veut. Bon, là où il y a une source, il y a un dieu, donc, crac, on va y coller un saint ou une sainte, une patronne de la fertilité, je ne sais quoi. Bon, là où il y a un pèlerinage, et le monde païen était farci de pèlerinage, on colle un pèlerinage chrétien.
Mais c'est un processus. Pour moi, c'est pas quelque chose de spontané.
Oui, attendez.
Parce que quand vous avez un pèlerinage, un culte local, qu'il y a une conversion plus ou moins massive du village, de la ville, on passe ses habitudes et on continue à.
Oui, sauf que la décision de faire disparaître, d'extirper la surface de la terre, tout ce qui était signe de culte païen, ça c'était des décisions conscientes. Ça c'est pas simplement le mouvement de l'histoire, ça c'est pas, peut-être que de temps en temps ça s'est trouvé comme ça, un peu, ah, on a été dépassé par les événements. Non, lisez les pères de l'Église, alors là, excusez-moi, lisez Tertullien, lisez Jérôme, lisez Augustin, alors après ça, c'était contre les hérétiques, on nommait hérétique l'évêque de la ville d'en face qu'on voulait dégommer, et bon, hein, alors qui allait l'empoche ? Lisez Peter Brown, le grand historien anglais, alors il vous raconte ça dans tous les détails, et là vraiment on a des textes. Il y a eu vraiment une violence absolument consciente, voilà. Mais il y a eu aussi, évidemment, des phénomènes comme ça, où tout d'un coup, on s'est rendu compte que tout le monde voulait faire des rues droites, enfin, pas tout le monde, tous les conseils municipaux voulaient faire des rues droites, système grec, au lieu des labyrinthes qu'on avait avant dans les villes. Bon, depuis qu'on a traduit des architecturats de Vitruve, bon, et c'est devenu, tous les rois ont voulu ça, tous les rois ont voulu des palais avec des jardins à l'italienne sur les plans à la grecque. Et voilà, alors ça, c'est la mode. Mais après ça, dire, on fait la censure. Parce que quand même, l'index des livres interdits, c'était pas une blague. Hein. Et les imprimeurs, ils ont cessé de produire. Excusez-moi, je suis très bavard, mais... Non, mais de temps en temps, il faut préciser. Bon, est-ce que... Mais comme vous dites, il faut regarder après ça. Moi, je vous ai donné des lignes de vision un peu marquées pour retenir. C'est comme le coup de Pétrarque et d'Homère. Voilà, on dit, au temps de Pétrarque, on ne pouvait pas trouver un. Tout le reste, après ça, tac, 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 il faut voir, suivant les lieux, les personnes.
Très bien. Merci beaucoup.
Bon.
Merci. Bon, allez.